Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Céline Hyde, endocrinologue au centre hospitalier de Perpignan et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec moi Laurence Barrier qui est diététicienne dans le service. Donc bienvenue à vous tous dans notre nouvelle émission qui a pour thème « Obésité et diabète, quelle prise en charge en 2021 ?» Donc, vous avez maintenant l'habitude. Je commencerai par introduire le sujet, puis nous répondrons aux questions qui ont été posées durant la semaine sur notre site et nous finirons par répondre à vos questions que vous aurez posées en direct. Alors, donc, pour commencer, il faut savoir que l'obésité est une maladie chronique qui résulte de l'intrication de plusieurs facteurs, qu'ils soient alimentaires, génétiques, épigénétiques ou environnementaux, tels que la sédentarité, le manque d'activité physique, l'horloge biologique. On sait que les patients, enfin les personnes qui travaillent de nuit ou qui manquent de sommeil ont tendance à avoir ont plus de risques de surpoids ou d'obésité. Elle est liée, comme vous en doutez, à un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Et il faut savoir qu'un individu a 2 à 8 fois plus de risques d'être obèse si les membres de sa famille le sont eux-mêmes. Selon l'OMS, 39% de la population adulte mondiale est en surpoids. 13% des adultes sont en obésité dans le monde. En France, on sait que 17% de la population adulte présente une obésité. Pour les enfants, l'obésité concerne 16% des garçons et 18% des filles. C'est une incidence qui est en augmentation. Et il faut savoir que le nombre de cas d'obésité a presque triplé depuis 1975. Donc, comme je vous l'ai dit, l'obésité constitue désormais vraiment une épidémie mondiale et il faut mettre en œuvre tous les moyens possibles pour pouvoir prévenir le surpoids et l'obésité. Pourquoi c'est important ? Parce que, comme vous le savez, l'obésité peut être associée à plusieurs comorbidités, peut se compliquer, notamment au niveau métabolique. C'est le sujet du jour puisqu'on va parler d'obésité et de diabète. Donc, l'obésité peut se compliquer de diabète de type 2 notamment, de problèmes de cholestérol, de ce qu'on appelle les dyslipidémies, problèmes de cholestérol ou des taux de triglycérides trop élevés. L'obésité peut également se compliquer d'hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires. Elle peut entraîner des problèmes respiratoires tels que le syndrome d'apnée du sommeil, qui est lui-même associé au risque cardiovasculaire. Elle peut encore induire des problèmes au niveau du foie et notamment ce qu'on appelle la stéatose hépatique. La stéatose hépatique non alcoolique, c'est un dépôt de graisse au niveau du foie qui peut lui-même entraîner des complications telles que la cirrhose. L'obésité peut favoriser également des maladies rénales chroniques, des problèmes articulaires, comme vous vous en doutez, le surpoids pèse sur les articulations, notamment des membres inférieurs, au niveau du dos également. On sait aussi que l'obésité est associée à un risque majoré de certains cancers. Et puis, il peut y avoir un retentissement au niveau dermatologique, avec la survenue de mycoses notamment, au niveau des plis, et évidemment un retentissement psychosocial. Donc voilà. Vous le voyez bien, l'obésité est une maladie chronique de par les complications qu'elle induit et il va falloir en fait s'attacher dès que l'on a un patient qui arrive à la consultation et qui présente un surpoids ou une obésité à dépister les comorbidités associées pour pouvoir les traiter au mieux. Alors comment est-ce qu'on définit l'obésité ? L'obésité se définit par l'indice de masse corporelle. Il faut savoir qu'un indice de masse corporelle se calcule par la formule que je vais vous citer, qui est le poids divisé par la taille au carré. Donc, vous prenez votre poids, vous le divisez par la taille et vous divisez encore le résultat par la taille. Ceci vous donne votre indice de masse corporelle ou BMI, en anglais Body Mass Index, IMC en français pour indice de masse corporelle. Un IMC normal se situe entre 18,5 et 25. Au-delà de 25, entre 25 et 30, on parlera de surpoids. Entre 30 et 35, on parlera d'obésité de grade 1. Entre 35 et 40, on parlera d'obésité de grade 2. Et un IMC supérieur à 40 définira l'obésité de grade 3. Donc voilà comment on définit l'obésité ou le surpoids. Je pense que je vais m'arrêter là pour introduire le sujet. Je vais laisser maintenant la parole à Laurence qui va répondre à quelques questions qui ont été posées. Et après, on abordera, si vous le souhaitez, les traitements de l'obésité, qu'ils soient médicaux ou chirurgicaux. En cas de diabète associé ou non, on pourra faire le point selon vos questions. Voilà, Laurence, c'est à toi.
Merci. Bonjour. Je répondrai tout d'abord à une question de Myriam, qui nous dit qu'elle est diabétique de type 2 et elle se demande quel régime elle doit suivre. Alors, je voudrais dire d'abord qu'aujourd'hui, le discours autour de l'alimentation de la personne diabétique est beaucoup moins restrictif qu'il y a quelques années en arrière. D'ailleurs, on ne parle plus de régime. L'alimentation de la personne diabétique de type 2, c'est une alimentation équilibrée, une alimentation que tout le monde devrait avoir pour rester en bonne santé. Alors, à savoir, une alimentation équilibrée au niveau des repas, on pourra amener une portion de protéines, c'est-à-dire viande, poisson ou œufs, une portion de féculents et une portion de légumes. Ensuite, suivant la faim, on pourra compléter le repas par un produit laitier, un fruit et éventuellement un morceau de pain. À savoir que les aliments glucidiques qui composent ce repas, donc je les reprends, c'est les féculents c'est les pâtes, le riz, la pomme de terre, la semoule et les légumes secs. Donc je disais les féculents, le pain et les fruits sont en contrôlé au niveau des quantités. Et les quantités seront bien sûr fonction de tout un chacun, en fonction de l'âge et de l'activité physique, par exemple. Alors je regarde une autre question. Asma. Asma nous a dit, je fais attention à ce que je mange, je ne grignote pas, mais je n'arrive pas à perdre de poids. Alors, effectivement, on peut avoir une alimentation équilibrée, mais ne pas arriver à amorcer une perte de poids. Donc, dans ce cas, c'est peut-être les quantités, la taille des portions qui sont en cause. Hein. Les quantités sont peut-être trop importantes. On va donc s'intéresser, dans ces cas-là, au comportement alimentaire, à la manière dont on mange. Asma, est-ce que vous prenez le temps de vous attabler confortablement lors du repas? Est-ce que vous mangez avec un écran, avec la télévision? Est-ce que vous mangez lentement? À savoir que ces éléments sont importants car ils permettent d'être dans de bonnes conditions pour ressentir les sensations qu'on appelle les sensations alimentaires. En fait, c'est le corps qui nous envoie des signaux qui sont la faim et la satiété, qui vont nous guider dans la prise alimentaire. La faim va déclencher la prise alimentaire et la satiété, qui est la disparition de la faim au cours du repas, va stopper cette prise alimentaire. Et c'est l'écoute de ces signaux, donc de la faim et de la satiété, qui va nous permettre d'adapter les quantités mangées à nos besoins et donc éventuellement d'amorcer la perte de poids recherchée. Alors, je regarde au niveau des questions. Je peux répondre aussi à Pierre qui nous dit qu'il est diabétique de type 2, qu'il a des envies de sucrer, qu'il n'arrive pas à contrôler et qui craque d'ailleurs régulièrement. Alors, à savoir que les raisons de ces craquages, qu'on appelle aussi compulsions, peuvent être multiples. Et je vais vous répondre en abordant plutôt la question de la restriction, d'un comportement restrictif qui revient souvent dans ce type de situation. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement restrictif? C'est par exemple quand on s'interdit de consommer certains aliments par peur de prendre du poids, par peur de déséquilibrer ses glycémies. Dans ces cas-là, l'interdit de l'aliment en question va renforcer l'envie. L'envie va amener petit à petit avec le temps la frustration qui, elle, va amener inévitablement le craquage, c'est-à-dire la compulsion, la consommation d'aliments éventuellement en grande quantité, qui peut amener la reprise de poids et souvent la culpabilité. Donc, dans ces cas-là, une solution, ça peut être de lever cet interdit, de travailler pour le lever, de s'accorder de temps en temps cet aliment à consommer avec plaisir et si possible, bien sûr, sans culpabilité. À savoir que le travail sur ce comportement, sur le comportement alimentaire, ce travail-là, au fil du temps, sera bénéfique et permettra de diminuer la fréquence des craquages. Et je terminerai juste en disant qu'il n'y a pas que le comportement restrictif qui amène des craquages, des compulsions. On peut avoir des émotions extra-alimentaires aussi qui vont amener des troubles du comportement alimentaire. Là, ça sera intéressant d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire avec notamment l'intervention d'un psychologue.
Qui a encore le temps, en fait.
Alors, je continue avec une autre question diététique. Ahmed, qui nous demande, qu'est-ce que l'IG? Alors, l'IG, c'est l'index glycémique. Cet élément donne une indication sur la capacité d'un aliment glucidique, donc ça veut dire qu'il contient des glucides, à élever la glycémie. Donc, en d'autres termes, il indique à quelle vitesse le sucre des aliments se retrouve dans le sang. Plus un aliment a un IG élevé, plus il fait monter la glycémie. Donc c'est vrai qu'il est intéressant de privilégier des aliments avec un IG bas. Juste à distinguer la notion d'IG de la teneur glucidique des aliments. Ce sont deux notions différentes. Un petit rappel pour les aliments à IG bas. Ce sont les aliments qui contiennent des fibres. Vous allez trouver les légumes, bien sûr. Vous allez trouver tout ce qui est graines oléagineuses, c'est-à-dire les amandes, les noix, les noisettes, les pistaches. On va aussi trouver les légumes secs qui sont très intéressants comme féculents. Et un petit mot sur les céréales complètes, comme par exemple le pain complet, qui auront un IG plus bas quand même que les céréales raffinées, comme le pain blanc. Et je finirai juste en disant que de bonnes associations alimentaires aussi peuvent être très intéressantes, puisque des glucides consommés seuls, comme par exemple un plat de pâtes, sera digéré beaucoup plus rapidement que s'il est accompagné d'autres aliments, comme par exemple des légumes qui contiennent des fibres. Voilà pour l'index glycémique.
Parfait. Donc, on va peut-être passer aux questions en direct et puis nous reviendrons, s'il nous reste du temps, aux questions qui ont été posées durant la semaine. Donc, Lotfi, vous nous demandez si la metformine chez l'obèse non diabétique prévient le diabète en association aux règles hygiéno-diététiques. Alors, Lotfi, en France, en fait, la metformine n'a pas l'indication chez le non-diabétique. Donc, on ne la prescrit que chez le patient diabétique. Si vous êtes obèse non-diabétique, on va vous proposer une prise en charge personnalisée selon votre comportement alimentaire, selon vos comorbidités, selon votre profil, votre âge. On sait que, de toute façon, la prise en charge de l'obésité passe par une bonne hygiène alimentaire et une activité physique régulière. Concernant l'activité physique, on conseille pour tout patient de réaliser 150 minutes d'activité modérée par semaine, par exemple 30 minutes 5 fois par semaine de marche. Ça peut être très bénéfique au niveau au niveau métabolique, au niveau ostéo-articulaire, au niveau psychologique. L'activité physique est toujours bonne à prendre pour le diabétique et pour l'obèse et puis même pour le patient, enfin la personne qui n'a aucun problème de santé. Donc voilà, et puis au niveau alimentaire, comme notre diététicienne a commencé à vous le dire, il faut privilégier une alimentation si possible équilibrée pour éviter en fait les surtout si vous présentez des comorbidités telles que diabète, problèmes de cholestérol ou de triglycérides, voilà. Et puis faire attention aux quantités. Lorsqu'on a trop de poids, c'est qu'il existe un déséquilibre entre les apports et les dépenses. Donc, pour pouvoir amorcer une perte de poids, on essaye soit de réduire la quantité de calories sans se priver, évidemment. Il ne faut pas non plus tomber dans la restriction. Qui est mauvaise à long terme, puisqu'on voit très bien que les régimes restrictifs ne marchent pas et que les patients qui ont fait des régimes restrictifs tout au long de leur vie finissent après à ne plus perdre de poids avec ces régimes restrictifs peuvent à terme aboutir à la constitution réelle de troubles du comportement alimentaire. Donc je pense qu'il faut oublier complètement les régimes restrictifs, mais favoriser effectivement une alimentation équilibrée qui répond au signal de faim et de satiété. Ne pas confondre la faim avec l'envie de manger, c'est totalement différent. Privilégier des repas pris dans le calme, des repas pris en plus de 20 minutes pour laisser le temps à la satiété, pour laisser le temps de percevoir la satiété. Voilà, donc il y a des règles diététiques à adopter en vue d'une perte de poids. Lorsqu'on n'est pas diabétique, il existe éventuellement d'autres prises en charge, qu'elles soient médicales ou chirurgicales, complémentaires des mesures hygiénodiététiques qui peuvent être proposées aux patients, selon, comme je vous l'ai dit, le vécu, le profil du patient. Alors, il faut savoir qu'il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés. L'Orlista ou Xénical, Ali, voilà, c'est un traitement qui empêche l'absorption des graisses, des lipides au niveau intestinal, qui peut entraîner une perte de poids modeste et qui peut aussi s'accompagner d'effets indésirables tels que des diarrhées. Voilà, mais il peut être proposé dans certaines situations chez le patient en obésité lorsque la diététique, les règles de vie ne sont pas suffisantes et qu'il y a besoin d'une aide médicale. Au-delà de 3 mois, si le traitement n'a pas été efficace, ce n'est pas la peine de le poursuivre. Il existe un autre traitement qui est sorti récemment, que l'on connaissait chez le diabétique, sous la forme de Victoza, donc c'est le liraglutide. Et ce traitement s'appelle le Saxenda. Ce traitement n'est pas encore remboursé. Il peut être proposé chez le patient en obésité, donc avec un indice de masse corporelle à plus de 30, non diabétique, ou chez le patient en surpoids, s'il existe une comorbidité associée. Donc, comme je vous le dis, ce traitement, on le connaissait chez le diabétique. Il avait l'intérêt non seulement d'améliorer l'équilibre glycémique, mais il favorisait également le sentiment de satiété, puisqu'il ralentissait la vidange de l'estomac et il agit également sur le centre de la satiété au niveau central. Et c'est un traitement qui permet de ce fait de diminuer les apports alimentaires et de favoriser la perte de poids. Et le Saxenda, en fait, c'est du liraglutide, comme le Victoza, mais on dispose de dosages plus importants pour favoriser donc la perte de poids. Voilà pour les traitements médicaux. Et puis, il existe les traitements chirurgicaux, mais j'en reparlerai peut-être après. Si j'ai une question sur la prise en charge chirurgicale de l'obésité, on y reviendra. Voilà. Et pour le diabétique, on va en parler aussi, puisque j'ai une question qui me demande, un patient qui me demande, je suis diabétique de type 2, je suis sous insuline, j'ai tendance à prendre du poids, que puis-je faire ? Alors, il faut savoir que chez le diabétique de type 2, on dispose d'un arsenal thérapeutique intéressant pour agir à chaque moment de l'évolution du diabète. L'insuline, on la réserve effectivement chez le patient qui arrive à un stade d'insulinopénie ou si les traitements précédents ne suffisent plus. Effectivement, l'insuline est un traitement du diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, mais on privilégiera au départ d'autres molécules, surtout si le patient est en surpoids ou en obésité. On en a déjà parlé au cours des émissions précédentes. Vous connaissez les analogues du GLP-1, on a parlé du Victoza, mais il existe également le Trulicity, l'Ozempic, qui sont des analogues du GLP-1 qui s'injectent de manière hebdomadaire, contrairement au Victoza qui s'injecte de manière quotidienne. Ces traitements sont des traitements du diabète de type 2 et favorisent la perte pondérale parallèlement à l'équilibration glycémique. Ils ont également montré des effets cardiovasculaires intéressants au cours des études. Donc voilà, ce sont des traitements qui sont vraiment intéressants chez le patient diabétique de type 2, en l'absence de contre-indication, évidemment. Et puis, il existe un autre type de molécules qu'on appelle les inhibiteurs du SGLT2. On a déjà parlé du Forxiga. Bientôt, le Jardiance. Voilà, ce sont des molécules qui permettent d'inhiber la réabsorption rénale du glucose, du sucre, et qui, de ce fait, entraînent ce qu'on appelle une glycosurie, c'est-à-dire une excrétion de sucre dans les urines, ce qui permet d'améliorer l'équilibre du diabète, mais également de favoriser la perte de poids, avec des pertes de poids moyennes dans les études autour des 3 kg. Et les études ont montré également des effets bénéfiques sur la protection cardio-rénale. Donc ce sont vraiment des molécules intéressantes chez le patient diabétique de type 2 qui sont préconisées en France chez les patients en échec de metformine par exemple, chez les patients en diabétique présentant des complications cardiovasculaires ou rénales pour les inhibiteurs du SGLT2 et en surpoids, en obésité. Donc ce sont vraiment des molécules intéressantes.
Alors, je continue peut-être avec une question de Christelle qui nous demande que manger le matin pour changer du pain complet et du petit épeautre et surtout pour éviter les pics de glycémie. Donc effectivement, le but est d'avoir un petit déjeuner pas trop hyperglucidique pour favoriser un équilibre glycémique dans la matinée. En remplacement du pain complet, on peut imaginer un petit déjeuner avec un laitage nature comme un fromage blanc qu'on pourra additionner par exemple deux flocons d'avoine non sucrés et éventuellement amener quelques graines oléagineuses, c'est-à-dire des noix, des amandes ou des noisettes. Pourquoi pas ? Je continue peut-être avec une question que j'ai vue passer sur les fruits. Voilà. C'est Yuli qui nous demande quels fruits sont conseillés pour les patients obèses. Donc je dirais qu'il n'y a pas de fruits conseillés ou déconseillés, aucun fruit est interdit. Que l'on soit patient obèse avec un diabète de type 2 ou sans diabète de type 2, le tout est d'en manger de manière, réfléchis peut-être en restant sur sur deux à trois portions par jour. Qu'est-ce que c'est qu'une portion de fruits ? Une petite banane est une portion de fruits, une pomme est une portion de fruits, deux, trois abricots, c'est une portion de fruits. Et je conseille pour les personnes diabétiques de type 2 de consommer les fruits plutôt lors des repas, comme je vous disais tout à l'heure, lors des repas équilibrés, que dans l'après-midi en prise isolée, où là, ils feront augmenter les glycémies.
Alors, j'ai une question de Martine. Vous êtes diabétique de type 2 en obésité de grade 3. Vous avez du mal à bouger et vous avez entendu dire que la Sécurité sociale pouvait prendre en charge le sport adapté. Est-ce vrai ? Oui, Martine. En fait, il faut une prescription de votre médecin et il faut prendre contact avec un APA. Donc, c'est une personne qui vous propose une activité physique adaptée. Mais effectivement, la Sécurité sociale prend en charge l'activité physique chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, pas que l'obésité, pas que le diabète, mais dans certaines maladies chroniques. Ensuite, Ahmed, quelle est la place du liraglutide dans la prise en charge des diabétiques obèses ? Quel est mon avis ? Donc, Ahmed, j'en ai déjà parlé. Le liraglutide est un traitement intéressant. Il fait partie des analogues du GLP-1, de la classe des analogues du GLP-1. Il est intéressant chez le diabétique de type 2, de par ses effets sur la glycémie, sur le poids, au niveau cardiovasculaire également, avec des études qui ont montré en fait des effets bénéfiques. Donc c'est un traitement qui a toute sa place évidemment chez le diabétique de type 2. Jamie, vous prenez du Trulicity qui n'agit plus désormais depuis que vous êtes sous insuline rapide et lente. Alors, que voulez-vous dire quand vous dites que ça n'agit plus ? Est-ce que vos glycémies sont élevées ou est-ce qu'il n'agit plus au niveau du poids ? Alors, je pense que vous voulez parler du poids. Effectivement, le Trulicity, lorsqu'on va introduire un traitement par analogue du GLP-1, vous allez avoir une perte de poids conséquente au départ qui va se ralentir par la suite, en sachant que l'insuline freine également la perte de poids. Donc, il faut revoir peut-être les règles hygiéno-diététiques avec votre médecin, avec une diététicienne, éventuellement un coach sportif, pour pouvoir, si vous le souhaitez, avoir de nouveau un effet starter sur la perte de poids, voire mettre en place peut-être un traitement par Forxiga. Et puis, si vous avez une obésité qui est vraiment importante, pourquoi pas envisager une chirurgie de l'obésité, ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique. Donc en fait, il faut savoir que la chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'estomac. Il existe plusieurs types de chirurgie. L'anogastrique, dont vous avez certainement entendu parler. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont la sleeve gastrectomie, où on enlève une partie de l'estomac pour réduire le volume de l'estomac et limiter justement les quantités prises au moment des repas. Et puis, il y a une autre technique qu'on appelle le bypass, qui est en fait un court-circuit gastrique. C'est-à-dire qu'on crée une nouvelle poche gastrique, une nouvelle poche d'estomac, qu'on va relier directement à une portion d'intestin grêle. Et cette technique induit une malabsorption des aliments, c'est-à-dire que vous absorbez moins bien les aliments, donc vous allez perdre du poids. La chirurgie bariatrique est envisagée, est indiquée chez des patients en obésité de grade 3, c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle de plus de 40, ou en obésité de grade 2, c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle entre 35 et 40, s'il existe une comorbidité associée. Donc la comorbidité associée, ça peut être du diabète, ça peut être de l'hypertension, des problèmes de cholestérol ou de triglycérides, de l'apnée du sommeil, un foie gras, donc une stéatose hépatique, ou des problèmes ostéo-articulaires. Si vous souhaitez vous engager dans ce type de parcours, il faut bien évidemment avoir un suivi spécialisé par une équipe pluridisciplinaire qui a l'habitude de pratiquer la chirurgie bariatrique, avec un suivi non seulement avec l'endocrinologue, avec le chirurgien, mais également un suivi auprès de la diététicienne et d'un psychologue avant le parcours. Et il est recommandé de bénéficier d'un suivi médical d'au minimum 6 mois à 1 an avant d'envisager un tel traitement. Pourquoi ? Parce que ça nécessite une préparation particulière et puis un dépistage des comorbidités, de problèmes sanguins, de problèmes cardiovasculaires avant d'envisager ce type de chirurgie. Ça marche bien au niveau du poids, mais comme je vous le dis, il faut vraiment être encadré et ne pas présenter de contre-indications. Mais effectivement, ça peut s'envisager en cas d'échec de la prise en charge médicale.
Laurence, je peux peut-être continuer avec la question de Thérèse qui demande « Est-ce que le fromage mangé le soir fait grimper la glycémie ?» Alors, je dirais que non. Le fromage ne fait pas grimper la glycémie, d'ailleurs, qu'il soit consommé sur le repas du midi ou sur le repas du soir, car le fromage est un aliment sans glucides, donc pas de sucre qui feront grimper la glycémie. Attention, le fromage, c'est quand même un aliment gras, donc on veillera à en consommer plutôt une fois par jour. Je continue peut-être avec Daniel qui nous dit « Ma mère diabétique prend de l'insuline. Comment pouvons-nous gérer ces portions de nourriture ?» Alors, ce qui peut être déjà intéressant, c'est de veiller à l'équilibre de l'alimentation. C'est ce que je disais en répondant à la première question tout à l'heure. Une alimentation équilibrée avec la portion de protéines, les féculents, les légumes. La taille des portions est vraiment fonction de tout un chacun. Vous pouvez peut-être commencer par amener une portion d'une centaine de grammes sur les féculents. Et après, il faudra bien sûr voir si c'est quelque chose qui est adapté. Et travailler bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les sensations de faim et de satiété qui, elles, vont vraiment permettre d'adapter ce que l'on mange aux besoins de l'organisme.
Voilà, et en fait, après, tout dépend également de l'insuline qui est réalisée. Si votre maman a de l'insuline rapide au moment des repas, il faut effectivement, impérativement, qu'elle ait une consommation de glucides au repas pour éviter les hypoglycémies. Donc ça, c'est important. Alors, Jessica, y a-t-il des médicaments qui aident à maigrir ? On m'a parlé du Saxenda, donc effectivement, je vous en ai parlé. C'est un traitement de l'obésité ou du surpoids s'il est associé à une comorbidité, mais qui n'est pas encore remboursé, qui se fait sous la forme d'injections sous-cutanées quotidiennes, avec une dose qu'on va démarrer progressivement à 0,6 mg par jour et que l'on va monter, si la tolérance digestive est bonne, jusqu'à 3 mg par jour. Zacharia, vous me demandez quelles sont les complications du diabète. Eh bien, alors là, on est un petit peu en dehors du sujet, mais ça a été le sujet de précédentes émissions. Donc, je vous propose de vous y rapporter parce que je n'aurai pas le temps, malheureusement, de détailler les complications du diabète aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Ah, peut-être une dernière question. Alors, Cathy, vous nous dites que vous avez plus de 60 ans. On vous a refusé une opération chirurgicale. Donc, je pense que vous parlez de la chirurgie bariatrique. Vous n'y avez pas eu droit. Alors, en fait, il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est à cause de l'âge qu'on a refusé cette intervention, ou est-ce que vous n'êtes peut-être pas encore prête au niveau de votre comportement alimentaire? Ou est-ce que vous avez un état de santé en fait qui vous rend trop fragile pour supporter l'intervention ou l'anesthésie? Donc ça demande un peu plus de précision. Si c'est à cause de l'âge, sachez que votre dossier en fait, en général c'est au-delà de 65 ans, le dossier peut être discuté dans un centre spécialisé pour l'obésité afin de valider ou pas une indication chirurgicale. Lorsqu'un centre qui a l'habitude ne peut pas prendre la décision, il peut demander l'aide de ce qu'on appelle le CSO. Voilà. Donc, je pense que ce sera la dernière question de Florence. Vous nous demandez si l'Ozempic permet une perte de poids. Oui, Florence, l'Ozempic appartient à la classe des analogues du GLP-1, comme le Trulicity ou le Victoza, le Bieta. C'est un traitement injectable en sous-cutané qui se fait toutes les semaines chez le diabétique de type 2 et qui permet effectivement une perte de poids en favorisant la sensation de satiété et en ralentissant la vidange de l'estomac parallèlement à l'équilibration glycémique. Voilà, je pense que nous arrivons au terme de notre émission. Donc, nous vous remercions pour votre écoute. Nous vous souhaitons un très bon week-end et on vous dit à bientôt.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète 66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.